Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bienvenue dans Éveil et Sortilège. Je suis Dorian.
Et moi, c'est Émilie.
Et aujourd'hui, on s'attaque à un document assez exceptionnel, en fait. Une vraie plongée dans la psychologie et les drames très concrets d'une des sociétés secrètes les plus commentées au monde.
Complètement. On examine la troisième édition du Manuel du franc-maçon.
Voilà, rédigé par Étienne-François Bazot et publié en 1817. C'est un texte qui est de nouveau accessible grâce à une réédition numérique de L'Arbre d'or, parue en Suisse en 2009.
Et ce qui frappe direct quand on ouvre cet ouvrage, c'est pas seulement la hauteur des idéaux affichés, c'est surtout l'honnêteté brutale de l'auteur sur la réalité du terrain.
Ah mais grave. On va décortiquer comment Bazot perçoit l'origine de l'ordre, sa vision hyper intransigeante des rituels, et surtout on va voir comment il fustige les dérives de son époque.
Sans aucun tabou bien sûr.
Exactement. Il y a une énergie débordante dans ce texte, un mélange de ferveur spirituelle et, disons, d'exaspération administrative. Ça rend la lecture hyper vivante.
Il y a des moments très drôles, oui. Mais pour bien saisir l'atmosphère de ce texte, il faut se planter le décor.
Vas-y, on t'écoute.
Idéalement, il faudrait imaginer une immense bibliothèque du 19e siècle, avec de très lourdes boiseries, des étagères complètement saturées de parchemins.
Le cliché parfait, quoi.
C'est ça. Et une lumière très focalisée. Juste quelques bougies qui projettent des ombres sur des symboles ésotériques gravés dans la pierre. C'est vraiment le décor intellectuel dans lequel Bazot opère.
Ouais, je vois très bien. Et d'ailleurs, le texte nous met face à un paradoxe structurel fascinant dès le début.
Le fait d'écrire un manuel sur une société secrète.
Ben oui. Comment tu fais pour publier un bouquin grand public détaillant les rouages d'une société qui est par définition censée rester cachée sans trahir tes serments ?
Il navigue sur cette ligne de crête avec une habileté folle. Il expose toute la colonne vertébrale philosophique. Il détaille la hiérarchie, les obligations morales.
Mais il verrouille tout le reste.
Voilà. Aucun mot de passe, aucun signe de reconnaissance physique. Son but, c'est de fournir un outil d'instruction pour les initiés qui, d'après lui, manquent cruellement de formation.
On y reviendra sur ce manque de formation, d'ailleurs.
Oui, on y reviendra. Tout en déconstruisant les fantasmes de complots politiques à l'extérieur des temples.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Pourquoi cette obsession pour les sociétés secrètes ? Pourquoi ça fascine autant ?
Bazot a une théorie presque psychanalytique là-dessus, sur le concept même de secret.
Ouais, il dit que l'esprit humain est organiquement attiré par l'inconnu.
Mais il va plus loin, il lie ça directement à notre ego.
C'est hyper intéressant ça, pour notre audience qui s'intéresse à l'occulte. C'est une mécanique de l'ego.
Il avance que la difficulté d'accès, l'incertitude et ce fameux voile du mystère, c'est ce qui permet à l'individu de savourer son succès.
Si la porte était grande ouverte pour tout le monde franchir le seuil, n'aurait plus aucune saveur.
Exactement. Le mystère agit comme un amplificateur de valeurs personnelles. Bazot le dit très clairement, le secret flatte l'orgueil de l'initié.
Le simple fait d'appartenir à un petit cercle fermé, d'avoir un savoir dissimulé au reste du monde, ça donne un statut, une aura.
Cette psychologie de l'exclusivité, elle est synthétisée de façon magistrale dans la gravure allégorique au tout début du livre.
Ah oui, cette gravure, elle est d'une densité folle.
Une composition remarquable. Au centre, on a la déesse de la maçonnerie qui ressemble trait pour trait à Minerve, la figure de la sagesse et de la stratégie.
Et elle n'est pas juste posée là, elle est juchée sur une pierre cubique parfaitement taillée.
Une pierre qui écrase physiquement un tas de monstres.
C'est d'une violence symbolique assumée. La déesse écrase l'ignorance, la superstition, la fourberie et la discorde. C'est la raison triomphante qui piétine les passions humaines.
Et regarde les objets qu'elle tient, le compas et le miroir pour la rectitude et l'introspection.
Sans oublier le glaive appuyé sur les tables de la loi, l'intransigeance de la justice. Mais attends. L'arrière-plan de cette image révèle aussi l'énorme ambition de l'auteur.
Tout à fait. Il intègre un chêne druidique, la tour de Babel, une pyramide égyptienne et un temple grec.
Rien que ça.
Cette scénographie n'a rien d'un hasard. Elle illustre la théorie historique de Bazot. Il refuse complètement l'idée que la maçonnerie viendrait juste des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge.
Ah non, lui, il remonte beaucoup plus loin, au balbutiement de la civilisation.
Il parle d'une religion primitive, un concept épuré à l'extrême, qui repose sur deux piliers exclusifs, l'amour de la divinité et la philanthropie.
L'amour de ses semblables, ouais. Et pour nous prouver ça, il nous plonge dans les rites initiatiques de l'Égypte antique, Isis et Osiris.
Ce qui est fascinant ici, c'est le niveau de détail qui fait littéralement froid dans le dos.
T'imagines le parcours d'obstacles extrêmes ? On dirait un film d'action. L'aspirant rampe dans des tunnels tout noirs.
Avec pour seule lumière une petite lampe fixée sur sa tête. Et là, il arrive devant un gouffre insondable.
S'il panique pas, il débouche face à une énorme porte d'airain. Et là, t'as trois mecs immenses avec des masques de chacal du dieu Anubis.
Qui lui hurle de fuir s'il n'est pas prêt à risquer sa vie.
Moi, je fuis direct, hein, je te le dis.
Et pourtant, c'est que le début. C'est une vraie ingénierie de la terreur déployée pour filtrer l'élite. Après l'avertissement, il y a l'épreuve du feu.
La caverne enflammée, ouais. Et direct après l'épreuve de l'eau, où il doit nager à l'aveugle dans un canal souterrain glacé.
Et l'apogée psychologique, c'est l'épreuve de l'air. On te fait courir sur un pont-levis.
Qui s'effondre ! Le truc se dérobe sous ton poids et tu restes pendu dans le vide, dans le noir absolu, avec un vacarme de folie autour de toi.
Il faut comprendre pourquoi il faisait ça. Les prêtres égyptiens cumulaient le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Pour transmettre ce pouvoir, il fallait être sûr que le candidat maîtrisait totalement ses passions.
Une résilience absolue face au néant. Une sélection implacable, quoi. Mais il y a une anecdote qui nuance tout ça. L'histoire de Triptolème d'Éleusis.
Une bascule majeure dans son récit, oui. Triptolème se présente à l'initiation, mais il bloque complètement devant l'épreuve du feu. Il s'effondre de terreur.
Normalement, la règle est claire. Un candidat qui échoue finit enfermé à vie dans les souterrains pour garantir le secret.
Mais les prêtres l'observent et ils décèlent chez lui une telle intégrité morale et une noblesse de cœur incroyable qu'ils décident de l'épargner.
Mieux que ça, ils vont même l'instruire un peu avant de le relâcher. Ça prouve que la résilience morale et la pureté des intentions priment sur la performance physique.
Et cette exigence morale, on la retrouve transposée de manière radicale dans le quotidien des loges de 1817.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. On voit comment ça fonctionne de l'intérieur.
Le temple est décrit comme un vrai laboratoire sociétal, avec des règles d'une sévérité absolue. Interdiction de se venger, interdiction de calomnier un frère.
Et un pragmatisme assumé sur l'argent. Tu refuses de payer tes cotisations, c'est l'exclusion directe. Faut un engagement matériel aussi net que l'engagement philosophique.
Et au cœur de cette structure, il y a l'égalité.
Ouais, le niveau. On connaît les outils des bâtisseurs, mais le niveau a une portée politique énorme ici.
Dans la France de la Restauration monarchique, avec ses classes sociales hyper polarisées, c'est une anomalie fascinante.
Complètement. À l'intérieur du temple, le dirigeant aristocrate et l'ouvrier artisan travaillent sur un pied d'égalité strict.
Ils sont soumis à la même autorité, le vénérable, qui est élu, et ils voyagent symboliquement vers la même destination.
L'outil du niveau efface les titres profanes.
Et pour protéger cette bulle égalitaire, la loge opère une déconnexion totale du temps et de l'espace.
Ah oui, l'âge et les heures.
C'est fou ça. Le rituel indique que les travaux s'ouvrent à midi et se ferment à minuit.
Dire qu'il est midi, c'est déclarer que le soleil est au zénith et qu'il n'y a plus d'ombre. C'est s'isoler délibérément du temps de la société et des crises extérieures. Et l'âge maçonnique, c'est pareil. T'as beau avoir 50 ans dans le monde civil, quand tu es initié, tu renais et tu as symboliquement 3 ans. C'est une remise à zéro identitaire.
Un dépouillement qui se voit aussi dans le serment. Bazo consacre des pages très intéressantes à cette évolution.
Le passage de l'évangile au glaive.
Oui, traditionnellement, on jurait sur l'évangile, mais Bazo observe que de plus en plus, le serment se fait sur un glaive, le symbole de l'honneur personnel.
Même s'il est un peu nostalgique de la solennité religieuse, il documente vraiment cette laïcisation de l'institution.
Elle cherche à se doter d'une éthique universelle pour unir des hommes de dogmes différents autour de ce concept d'honneur.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est beau sur le papier. Mais ça va se heurter violemment à la réalité des loges parisiennes.
Ah, la réalité du début du 19e siècle. C'est la partie la plus inattendue du manuel.
Bazo lâche son ton de philosophe pour devenir un polémiste en colère. Il est exaspéré par la dégradation des pratiques.
Faut dire qu'il a observé tout ça pendant 10 ans. Il dresse un réquisitoire féroce contre la marchandisation de l'initiation.
Le niveau de détail est savoureux. Il dénonce les faux frères, des mecs qui font les rabatteurs dans les cabarets de Paris pour recruter n'importe qui à la chaîne.
Aucun but spirituel, juste remplir les caisses pour payer des banquets.
Et parle des beuveries à 3 francs. Avec un mépris total, alors que les loges sérieuses font des dîners honorables à 9 francs, les imposteurs te bâclent les 3 grades fondamentaux en moins d'une heure.
Entre deux portes, un vrai fast-food de l'initiation.
C'est exactement ça. Et le pire, c'est la faune de profiteurs qui gravitent autour.
Bazo parle de ces individus qui circulent avec des diplômes grattés.
Les gars effacent le vrai nom sur un vieux diplôme pour mettre le leur, ils usurpent les mots de passe et ils utilisent l'hospitalité maçonnique comme des parasites.
Leur cible numéro un, c'est la caisse de solidarité.
Les fonds censés aider les membres dans le besoin. Ils empochent l'argent et filent direct le boire dans les tavernes d'à côté.
Imagine le dégoût de Bazo, lui qui te décrivait les épreuves mortelles en Égypte juste avant pour tester la pureté morale. Et là, il voit cette corruption mesquine tous les jours.
Mais attention, la corruption, c'est pas que la base qui cherche à boire à l'œil, c'est aussi le sommet pour pur ego.
Ah, la maçonnerie rouge, oui. L'inflation des hauts grades.
Il taille en pièces le nouveau rite de Mizraïm. Un système avec 90 degrés de progression. 90.
C'est l'antithèse absolue de la simplicité des trois grades fondateurs.
Des séries symboliques philosophiques, mystiques et kabbalistiques. On est dans une bureaucratisation complètement absurde de l'ésotérisme.
Il note avec pas mal d'ironie d'ailleurs que les 33 premiers degrés de Mizraïm se contentent de copier ce qui existe déjà ailleurs.
Ouais, et que le côté soi-disant kabbalistique ne commence qu'au 67e degré. C'est juste de la création de titres ronflants pour flatter la vanité de ceux qui paient.
En démultipliant la hiérarchie comme ça, ce système détruit l'essence même de l'outil du niveau dont on parlait.
L'égalité radicale disparaît. Elle est remplacée par une ségrégation interne basée sur ton compte en banque et ta capacité à acheter 90 échelons administratifs. L'ego gagne sur la philanthropie.
C'est le paradoxe ultime d'une institution humaine. Tu crées un microcosme parfait pour élever l'esprit.
Et cinq minutes après, la nature humaine s'empresse d'y ramener ses failles, sa vanité et son avidité.
Le manuel de Bazo, c'est l'autopsie d'une société en crise de croissance, tiraillée entre un héritage idéalisé et une gestion quotidienne chaotique.
Mais malgré toute sa colère, il ne condamne jamais l'outil en lui-même. Il garde une foi tenace dans l'idée originelle.
Un maillage fraternel mondial, capable d'unir des hommes de bonne volonté au-delà de leur classe sociale.
Il reste fondamentalement optimiste. Ses critiques contre les banquiers au rabais et la course au diplôme, elles visent à purger le système, pas à le détruire.
Il voit ça comme des scories inévitables quand un mouvement se massifie.
Son livre, c'est un électrochoc. Il exhorte les maçons de son temps à arrêter de collectionner des titres en papier pour se reconcentrer sur le silence, l'étude et l'application concrète de l'amour de l'autre.
Ce qui seul justifie l'existence de l'ordre, selon lui.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? L'exaspération de cet homme en 1817 résonne avec une pertinence assez troublante aujourd'hui.
C'est vrai, on peut facilement faire le pont avec notre époque.
Si Bazo s'indignait de voir la fraternité se réduire à la fréquentation de banquiers expéditifs et à l'accumulation narcissique de 90 connexions administratives...
Que penserait-il de notre conception moderne du réseau?
Exactement. Aujourd'hui, on accumule frénétiquement des milliers de connexions algorithmiques sur nos réseaux sociaux. Le statut se mesure au volume de likes ou de relations virtuelles avec des gens qu'on n'a jamais croisés.
Tout ça sans le moindre passage par la caverne enflammée. Sans la moindre épreuve morale commune.
Et sans aucun pont-levis intérieur à franchir. Ça pousse à s'interroger sur la solidité réelle des architectures sociales qu'on construit aujourd'hui.
Est-ce qu'on crée de vrais liens ou juste des illusions de réseau?
Une excellente réflexion qu'on va laisser mûrir pour ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir suivi cette exploration sans concession.
Merci à tous.
À très vite pour une nouvelle plongée analytique sur Éveil et Sortilège.
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.